C'est une forme. Dites à votre voisin, as-tu entendu la nouvelle? Non, mais dites-les comme si vous étiez vraiment là, excité. As-tu entendu la nouvelle? Allez-y. Alors maintenant, dites-lui la nouvelle. Ah, c'est quoi la nouvelle? Vous n'avez pas entendu la nouvelle? Jésus est ressuscité! Yes! Amen! Amen! Fantastique! Vous savez, c'est quoi le plus gros problème avec le personnage de Jésus de Nazareth? C'est pas la date exacte de sa naissance. Est-ce que c'est à Noël ou... c'est pas ça. C'est pas non plus s'il a vraiment existé. C'est-à-dire, est-ce que c'est un personnage historique qui est vraiment venu sur la terre? Il y a eu un Jésus de Nazareth qui a vécu à Jérusalem il y a 2000 ans. Ou encore, est-ce que c'est les propos révolutionnaires de son enseignement? C'est pas ça le plus gros problème. C'est pas non plus, est-ce que ces miracles sont vrais? Est-ce que c'est vraiment arrivé? C'est pas non plus sa prétention à être le roi des Juifs, comme Pilate a fait inscrire sur son écriteau, « Voici le roi des Juifs ». Ça n'a pas plu aux leaders religieux, mais c'est pas ça le plus gros problème avec Jésus. C'est même pas non plus l'exactitude de comment la crucifixion a été faite. Est-ce que c'était les bras par en haut, les bras sur le côté, c'était-tu une croix ou juste un T? C'est pas ça le plus gros débat sur la personne de Jésus. Le plus gros débat sur la personne de Jésus, savez-vous c'est quoi? C'est un tombeau vide. Un tombeau vide. Ça, c'est le plus gros problème. Parce que si le tombeau est vide, ce que ça veut dire? Il a vaincu la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Et ce qu'il a dit qu'il était est vrai. Il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Il est celui qui nous a fait connaître le Père. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que si lui a vaincu la mort n'a plus aucun pouvoir sur ceux qui croient en lui. Amen. Et ça veut dire que le ciel existe. Ça veut dire que c'est possible d'accéder à la vie éternelle, d'être avec Dieu pour l'éternité. C'est possible aussi d'avoir une transformation de vie. Parce que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est la même puissance qui peut faire, nous faire passer des ténèbres à la lumière. De nous emmener être sur le royaume et l'esclavage du péché. Et tout à coup, venir au royaume du Fils de Dieu et la liberté. Une vie libre. Une vie libre de la puissance des ténèbres. Et qu'on puisse dire oui à la vérité. Oui à l'amour. Oui à la paix. Oui à la délivrance. À la joie. À l'espérance. Imaginez-vous. Ça, c'est le plus grand débat. Et merci, oui Seigneur, merci. Vous avez peut-être entendu parler de la découverte en 1981 du soi-disant tombeau de Jésus. Le célèbre cinéaste James Cameron, qui a réalisé le film Titanic et plus récemment le film Avatar, a produit un documentaire en 2007 qui s'appelle The Lost Tomb of Jesus, qui est la tombe perdue de Jésus, ou le tombeau perdu de Jésus. Dans le but de démontrer que le tombeau découvert en 1980, qui était à Talbiot, dans la banlieue de Jérusalem, est bien celui de Jésus de Nazareth et en plus de sa famille, prouvant que Jésus était marié et qu'il a eu des enfants. Et le plus ironique, un de ses enfants s'appellerait Judas. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, soit en anglais ou en français, ou encore sur le site de l'Église, et on a un petit extrait, si on peut le montrer, d'une entrevue que Dominique Poirier a eue à Radio-Canada en 2007 avec trois invités, les historiens Pietro Bognino, Robert David de l'Université de Montréal et le théologien Luc Faneuf du Collège Villa Maria. Et dans ce reportage, justement, ils étaient là pour débattre, est-ce que cette découverte-là est vraiment crédible? S'agit-il vraiment du tombeau de Jésus? Et est-ce que effectivement Jésus n'est pas ressuscité, mais qui a été enterré à Jérusalem et en plus avec d'autres membres de sa famille, dont son épouse et un de ses enfants? Alors, si ça s'en vient, on va l'avoir. Pourtant, c'était là tantôt, mais on dirait que... Une des choses est certaine, et si vous aurez le temps, vous irez le voir sur le site de l'Église. Il est sur la page d'ouverture à votre droite. Et il y a deux parties au reportage. Et il y a aussi même un dépliant qui est disponible, qui est comme une réponse à cette soi-disant découverte et ce qu'eux tirent comme conclusion. Mais eux qui sont trois personnes dans le fond du Québec, pas des chrétiens évangéliques, un certainement enseigne dans un collège qui est catholique, mais en même temps, c'est trois personnes qui ont une crédibilité au Québec quand même reconnue. Et les trois soulèvent justement plusieurs problèmes avec cette soi-disant découverte et pourquoi les inscritos sur le tombeau en question référaient vraiment à Jésus. Et alors, je pense qu'on y est et vous allez voir ce qui en tire. Mais une des choses qu'un des trois dit, c'est que justement... C'est vraiment le plus gros problème présentement, c'est le tombeau vide. Et naturellement, certains aimeraient bien que d'autres conclusions soient là. Ah, OK, on l'a. Peut-être fermer les lumières ici.
Dans le même tombeau, bon, statistiquement parlant, les proportions sont plutôt minces. Le test d'ADN, ce qu'on explique par rapport au test d'ADN, c'est que ça a simplement prouvé que Marie-Madeleine et Jésus n'étaient pas frères et sœurs, donc... probablement un couple.
Bon, déjà, vous dites Marie-Madeleine, c'est déjà de faire l'interprétation de ce qui est sur l'inscription, oui. Parce que tout ce qu'on a, c'est Mariamé. Hein,
en
grec, en plus. Ça aussi, c'est intéressant, parce que là, on a une inscription d'un nom grec de quelqu'un qui vient de la Galilée, mélangé avec des gens, un nom latin. On a Maria qui est latin, écrit en hébreu, et le reste, c'est en araméen, avec l'inscription de Jésus, là, on n'a pas les choses ici. Puis, bon, on est un petit peu mal pris parce qu'on n'a pas vu le matériel. Hein. Je veux dire, on a quelques affaires sur Internet. On est un peu près avec ça aussi. Je dirais, tu sais, quand on regarde l'inscription qui est celle de Jésus, Yahushua, soit dit en passant. Hein, je veux dire, on dit Jésus, mais ça peut aussi bien être Josué, ça peut aussi bien être Josiar, ça peut être. Hein, bon, on l'a interprété directement
donc,
avec Jésus.
Ça
ne dit pas grand-chose. Et le nom qui est sur cette inscription-là, est tellement mal écrit qu'on dit, si jamais c'était le personnage auquel on... Il me semble que quelque part, on se serait arrangé pour faire une inscription qui a à peu près de l'allure. Or, c'est l'inscription la pire de l'ensemble des six qui ont été trouvés, sans me poser un certain nombre de questions.
C'est historique.
Je pense qu'on ne finira pas d'accumuler les objections au fur et à mesure que des regards neutres sur ça vont s'ajouter. Parce que l'impression que j'ai, c'est l'impression, il faudrait voir les documents, est que jusqu'à date, quelqu'un, un peu en cachette, a suivi une filière qu'il est à peu près le seul à contrôler, et il nous dit à la fin, j'ai découvert un nouveau Raphaël, venez voir mon tableau, mais il faut voir les expertises à côté. Et les expertises, j'ai bien peur. Déjà maintenant, les savants israéliens ont dit, il n'y a rien là, c'est une belle hypothèse, mais il n'y a pas d'argument pour la prouver. Et cet argument de dire, même si à la fin on avait là un Jésus, comme dit mon collègue, on n'a que les consonnes, donc ça peut être d'autres noms, faire le lien avec Jésus de Nazareth sera un saut large dans l'océan.
Mais Clément, on va revenir tout à l'heure après la pause sur les fondements du christianisme, évidemment, est-ce que ça vient chercher, mais est-ce que c'est pas normal ou êtes-vous étonné de voir qu'encore aujourd'hui on tente de retrouver les reliques de Jésus, qu'on continue à chercher et qu'on se dit que Jésus a été humain, peut-être marié, peut-être une descendance?
C'est clair que c'est normal parce que d'abord c'est un personnage qui à travers l'histoire, je dirais c'est le personnage, je suis biaisé, mais le personnage le plus fascinant de l'histoire, en fait, je pense que même des gens de plusieurs religions vont dire, Jésus Nazareth, il est incontournable comme personnage historique, et deuxièmement, on a un problème, c'est qu'on n'a pas de corps. On sait que cet homme-là a vécu, on a des témoins historiques, mais on n'a pas de corps. Évidemment, les dogmes de l'Église disent 40 jours après son ascension. Alors, pour nous, c'est logique, mais je veux dire, pour des gens qui sont dans une, qui sont pas dans une approche de foi, ben, il manque un corps. Mm-hmm. Il faut trouver un corps. Alors, c'est, ça stimule une quête, une recherche, archéologique au moins.
D'accord. On s'arrête là-dessus, on revient tout de suite après la pause. Restez avec nous, mesdames et messieurs, pour la suite de notre discussion.
On a un problème. On n'a pas de corps. Il manque un corps. Alors, vous voyez que s'il y en a qui aimeraient voir le reportage au complet, il est en deux parties aussi. Alors, sur le site de l'Église, vous aurez l'occasion d'aller le voir. Alors, loin de détruire, en fin de compte, le fait historique qu'il y a un tombeau qui était vide et qu'il y a un corps qui n'a pas été retrouvé. Au contraire. Maintenant, ce qu'on va regarder ce matin, on finit l'Évangile de Marc. On est au chapitre 16. Et là, on va aller voir ce que Marc donne justement comme récit de la résurrection. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a au moins quatre preuves montrant la résurrection de Jésus, juste dans le récit de Marc ici. Il y en a plus que ça qu'on pourrait trouver ailleurs dans les autres évangiles ou même dans le reste du Nouveau Testament. Mais j'aimerais ça ce matin, avec le temps qu'on a, de regarder au moins ces quatre preuves-là. Et aussi, c'est quoi l'importance de la résurrection, même pour nous encore aujourd'hui? Et j'espère qu'à travers ça, le Seigneur va toucher chacun de nos cœurs. On va prier ensemble. Merci Seigneur Jésus, merci des récits de l'Évangile, de chaque Évangile qui nous parle de cet événement extraordinaire, unique au monde, où tu es ressuscité d'entre les morts et tu es monté au ciel. Jamais tu as connu la mort une deuxième fois. Parce que Seigneur, tu es vivant. Et c'est ton statut présentement. Tu es vivant depuis toute éternité et en tant que fils de l'homme, ayant subi la mort à cause de nos péchés, trois jours plus tard, tu es ressuscité, montrant que tu avais vaincu. Vaincu la bataille contre le diable, contre le monde, contre le péché, contre la chair. Et que maintenant, Seigneur, tu nous offres cette nouveauté de vie à nous aussi. Nous avons la possibilité, chacun de nous, d'être vivant, d'avoir cette vie nouvelle et d'avoir cette communion intime avec toi. Et de vivre dans ce monde, non pas avec nos propres forces, non pas avec notre propre perspective, nos propres ressources, mais en ayant cette relation avec toi qui fait toute la différence dans nos vies. Merci Seigneur Jésus de cet évangile qu'on va regarder ce matin, ce chapitre 16, et que tu puisses Seigneur interagir avec chacun de nous et nous aider à voir toute l'importance de ta résurrection. En ton nom Jésus, amen. Alors Marc 16. Le chapitre 16 se divise en trois parties. Il y a les versets 1 à 8, où là on voit le tombeau vide. Ensuite, il va y avoir la partie 9 à 18, et qui va parler ici des apparitions que Jésus a eues après sa résurrection. Et finalement, les versets 19 et 20, qui vont nous mentionner l'ascension au ciel. La chose que j'aimerais dire à ce point-ci, c'est que certains manuscrits ont seulement les versets 1 à 8 et n'ont pas les versets 9 à 20. Alors là, il y a tout un débat dans le monde théologique et tout ça, à savoir est-ce que c'est la section 9 à 20 est vraiment la section que Marc a écrit lui-même ou est-ce qu'elle aurait été rajoutée par la suite, et il y a tout un débat là-dessus. Une chose est certaine, c'est que ce qu'on retrouve dans 9 à 20 ne vient en rien contredire ou changer l'histoire de la résurrection, puisque les autres évangiles vont dans le même sens. Et donc, c'est en harmonie. Et plusieurs pensent que même ces versets-là doivent être pris comme étant inspirés de Dieu et non pas simplement un hasard ou ayant été une manipulation humaine. Alors, je vais lire les versets 1 à 8 et ensuite je vais continuer jusqu'au verset 20. Mais ici, c'est le tombeau vide. Donc, on lit ceci. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, qui est mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Et en passant, elles savaient où c'était parce qu'elles avaient été et suivi pour voir où Joseph allait mettre le corps de Jésus. Et ils avaient vu l'endroit. Donc, pour eux, ils ne sont pas allés par hasard. Ils ne sont pas arrivés à une place. Ils disent, ah, peut-être site. Ils l'avaient vu là, la veille où c'était. Fait qu'ils savaient où ce qui s'en allait. Verset 3, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Parce que là, comment est-ce qu'on va pénétrer à l'intérieur, étant donné que c'est une pierre qui est énorme et ça prend plusieurs personnes pour bouger cette affaire-là? Donc, c'est une question très légitime. Ce que ça montre aussi, c'est que ça montre que, dans le fond, elles n'anticipaient pas la résurrection, là. OK? Ça, c'est un fait très important qui va en faveur de la crédibilité du récit biblique. Parce que tout concorde au fait que ça a été une surprise, autant pour les disciples que pour les femmes ici, que Jésus soit ressuscité. Alors, au verset 4, ça dit, « Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. » Donc, premier effet de surprise. « Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. » Alors, la réaction, encore là, démontre leur effet de surprise et même leur terreur. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Verset 8, « Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent. » Donc, on peut s'imaginer qu'ils ne marchaient pas, mais qu'elles couraient, hein? « S'enfuyaient tremblantes. » Et hors d'elle-même, ce qui est une réaction tout à fait normale. Mais elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Donc, leur première réaction, ça a été de dire, c'est-tu vrai? C'est-tu arrivé? C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez? Puis là, c'était un peu leur première réaction. Mais on sait qu'elles l'ont dit finalement aux apôtres. Alors, les versets 9 à 18, maintenant, les apparitions. Jésus commence à apparaître. Au verset 9, « Jésus ressuscité le matin du premier jour de la semaine, qui était le dimanche, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. » Alors, on sait par les autres évangiles que Marie-Madeleine est retournée et qu'elle était seule et que là, Jésus s'est manifesté à elle. Verset 10, « Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. » Alors donc, il y a deux événements. Le tombeau vide, qui va être rapporté aux disciples, et aussi la résurrection que Marie-Madeleine ici. Donc, vous voyez, il y a deux nouvelles, deux bonnes nouvelles. La première, le tombeau est vide. Et la deuxième, Jésus est ressuscité, je l'ai vu. Alors, vous voyez. Alors, au verset 12, « Après cela, il se montra sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne, alors sur le chemin d'Emmaüs. » Verset 13, « Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux onze pendant qu'il était à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Et le livre des Actes rapporte amplement tout ce que Jésus dit qui était pour arriver, justement, suite à sa résurrection. Et finalement, les versets 19 à 20, où on voit Jésus monter au ciel. « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout, en parlant des disciples. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Donc, ça, c'est le récit biblique. Quelles sont les preuves de la résurrection? La première preuve, c'est quoi? Le tombeau vide. Aussi simple que ça. Alors, les versets 1 à 8. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y avait une garde romaine qui avait été placée là pour protéger le tombeau. OK? Donc, il ne s'est pas laissé un peu au hasard parce que les chefs religieux se souvenaient que Jésus avait dit qu'il ressusciterait trois jours plus tard. Alors, eux pensaient qu'il y aurait peut-être une supercherie puis que ses disciples viendraient enlever son corps puis après ça, ils diraient « Ah, Jésus est ressuscité puis il n'est plus là, puis ta-ta-ta-ta. » Puis là, ils diraient « Ça serait encore pire, là. Il y aurait encore plus d'effets. » Fait qu'ils ont dit, ils sont allés voir Pilate puis ils ont dit à Pilate « Pilate, s'il vous plaît, place une garde, explique un peu pourquoi. » Pilate accepte et envoie une garde, peut-être d'une dizaine d'hommes, une dizaine de soldats romains, bien équipés et qui étaient là pour garder justement 24 heures sur 24 pendant au moins trois jours, parce que c'était après trois jours qu'il y avait peur que ça se passe. Alors, on sait que c'était ça qui s'est passé, que Pilate a accordé. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les soldats romains, naturellement, leur vie était un peu comme... sur la ligne là, avec ce défi-là. Pour un soldat romain, là, s'il accomplissait pas sa mission, puis en plus qu'il s'était assoupi, qu'il s'était endormi, et que là, ce qu'il avait à faire n'a pas été fait, bien, ils avaient des représailles très sévères contre eux, pouvant aller jusqu'à la mort, dépendamment de comment le gouverneur Pilate aurait filé. Là. Alors, ces gars-là, ils savaient que leur vie était sur la touche, et donc, ils n'avaient pas intérêt, là, à prendre ça d'une façon légère. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'en dépit de cette garde romaine, le tombeau est vide. Et savez-vous qui a été les premiers témoins du tombeau vide? Les soldats romains, des fois on pense que c'est les femmes. Mais non, c'est faux. Le texte, ici c'est dans Matthieu 28, 1 à 4, nous dit que Un tremblement de terre, et même un grand tremblement de terre est arrivé, et puis qu'un ange du Seigneur est apparu, il y avait l'aspect d'un éclair, et son vêtement était comme la neige, et là, c'est lui qui est descendu du ciel, puis il a roulé la pierre, et s'est assis au-dessus, au vu et su des soldats romains. Et ça dit ici dans le texte, les gardes tremblèrent, on pourrait rajouter là, comme... des pissous, et devint comme mort. Alors, ces hommes qui étaient habitués là, à la guerre, qui en avaient vu d'autres, là, et peut-être certains d'entre eux avaient fait partie de ceux qui s'étaient moqués de Jésus, hein, qui l'avaient giflé, qui l'ont fouetté, ou en tout cas, qui étaient au courant là, de ce qui s'était passé avec lui et qui il était. Et là, tout à coup, là, devant l'ampleur, de ce qui se passe, des phénomènes physiques, terrestres, là, ils sont terrassés et foudroyés par la peur. Alors ça, c'est intéressant de voir que eux sont les premiers témoins. Ensuite, Marc nous dit qu'il y avait un groupe de femmes. Donc, à l'aube du dimanche matin, c'était très tôt le matin, et là, on sait qu'il y a Marie de Magdala qui est là, celle qui avait été délivrée de 7 démons. Il y avait Marie, qui était la mère de Jacques, le mineur, et il y avait Joseph, de Jacques et de Joseph, ou une autre place, ça dit José, et Salomé, qui était mère des fils de Zébédée. Vous vous souvenez de Jacques et de Jean, qui sont les fils de Zébédée. Alors, toutes ces femmes-là étaient là, et ça dit dans Luc 24, 10, qu'il y en avait d'autres femmes, sans nommer les noms. Alors, le groupe exact, on ne sait pas. Mais il était encore peut-être 7-8 femmes ensemble et qui avaient simplement le désir de se rendre au tombeau et d'appliquer des parfums pour embaumer. Mais en fait, le mot qui est là, c'est plus frictionner, oindre, parce que les Égyptiens embaumaient leurs morts, tandis que les Hébreux, eux autres, faisait juste de frictionner avec des arômes pour simplement que, autrement dit, la senteur soit bonne. Alors, c'était leur méthode à eux. Donc, c'est clair qu'elles n'anticipent pas la résurrection. Leur but, là, c'est simplement d'aller prendre soin du corps de Jésus. Par amour pour lui, par respect envers lui, et là, ils veulent simplement aller parce que Jésus, naturellement, avait eu aucun soin, étant donné que c'était le sabbat qui s'emmenait avec la Pâque et tout ça, fait que là, il n'y avait plus rien qu'ils pouvaient faire. Fait que là, ils sont venus le dimanche matin parce que là, c'était fini. Et là, maintenant, ils pouvaient se déplacer puis faire des choses pour son corps. Il y a aussi un groupe d'hommes, et les premiers que je vous ai dit tantôt, c'est les soldats romains qui étaient sur place quand c'est arrivé. Mais on sait aussi qu'il y a l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean qui se sont rendus au tombeau. Et c'est Jean qui donne les détails ici de cette course qui semble y avoir eu entre Pierre et Jean, où Jean est parti en premier, mais finalement Pierre semble l'avoir rattrapé. C'est-à-dire c'est l'inverse, excusez-moi. Pierre a eu un bon départ, mais c'est Jean qui est arrivé en premier. Et là, ils ont trouvé, eux, par terre, dans le tombeau, les linceuls ou les bandes qui avaient contenu le corps de Jésus dans lequel il avait été enrôlé. Et il y avait aussi le linge qui avait été mis sur sa tête, c'est-à-dire qu'il était plié et dans un lieu à part. Alors, ce qui était une autre preuve, encore là, que son corps n'avait pas été dérobé. Parce que si son corps avait été dérobé, bien naturellement, on n'aurait pas pris le temps d'enlever tout ça de lui. Il aurait simplement parti avec tout ce qu'il avait et il se serait enfui. Puis en plus, si on considère qu'il y avait des gardes romains, ça devenait impensable, un tel scénario. Alors ça, c'est la première preuve. C'est le tombeau vide. Ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve la deuxième preuve, je viens de vous la nommer, c'est les témoins du tombeau vide. Alors, il y avait le tombeau vide, et la deuxième preuve, c'est les témoins qui ont vu que le tombeau était vide, dont les soldats eux-mêmes. Et c'est intéressant aussi de voir que les soldats sont retournés voir les sacrificateurs et les anciens pour leur dire que, oups, on a un problème, il n'y a plus de corps. On fait quoi? Ils sont allés les voir en premier. Et là, les sacrificateurs et toute la gomme ont dit, regardez, dites qu'on l'a volé. Puis si Pilate veut du trouble, ben nous autres, on va expliquer tout à Pilate. Donc, ayez pas peur, on va couvrir votre dos. Fait que même si vous dites un mensonge, c'est pas grave. Alors ça faisait partie de la scène de ce qui s'est passé. Donc, la première preuve, c'est le tombeau vide. La deuxième, c'est les témoins du tombeau vide. Et la troisième preuve, c'est les apparitions de Jésus qui a été ressuscité. Et il y en a au moins 10. Marc ne les donne pas les 10, mais là, je vais vous les énumérer brièvement. Il y en a au moins 10 apparitions de Jésus après sa résurrection. Alors, la toute première, c'est celle avec Marie Magdala. Ensuite, la deuxième, c'est celle où Jésus est apparu aux autres femmes sur la route. Et ces femmes-là se sont jetées à ses pieds pour l'adorer. Donc, dans Matthieu 28, 9. La troisième, un peu plus tard, le même jour, il est apparu à deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et puis, ils ne le reconnurent pas. Et c'est intéressant de voir qu'au début, ils parlaient avec lui comme si il était un juif ordinaire. Et à un moment donné, ils ont dit, « Écoute, t'as pas entendu parler de la nouvelle? T'as pas entendu la nouvelle? » Fait qu'il dit, « Quelle nouvelle? » Et là, il commence à parler de Jésus qui a été crucifié. Puis là, certains disent qu'il serait ressuscité. Et là, ça dit, à un moment donné, que Jésus a pris du pain, il a rendu grâce, il le rompit et le leur en donna. Et là, à ce moment-là, ils se dirent l'un à l'autre, « Nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Et là, c'est comme tout à coup, ils ont réalisé que c'était Jésus. Et quand Jésus, parce que tout de suite après que Jésus ait fait ça, ça dit qu'il a disparu. Et c'est là qu'eux ont pris conscience, les yeux se sont ouverts puis ont réalisé que c'était Jésus. Mais une chose qu'ils ont constatée, c'est qu'ils ont dit, nos cœurs, en sa présence, brûlaient en dedans de nous. Il y a quelque chose qui se passait en eux, juste du fait que la manière que Jésus leur parlait, même s'ils ne savaient pas que c'était lui, ça touchait leur cœur. Et ça, c'est quand même intéressant de voir ça. Une quatrième apparition, Luc 24, 34, nous dit que Pierre a vu Jésus. Seul. Ensuite, on sait une cinquième apparition que les disciples Et là, ici, il y en avait 11 la première fois, 11, c'est-à-dire 10 sur les 11, parce que là, Judas, naturellement, n'est plus là. Alors, 10 des 11 disciples ont vu Jésus en l'absence de Thomas. Et ça dit, le texte dit, ils furent tous effrayés, croyant voir un fantôme. Parce que Jésus est apparu, là, il n'est pas passé par la porte, il est vraiment arrivé comme ça, un cheveu sur la soupe, et il leur est apparu. Et là, ils ont eu de la difficulté à croire que c'était Jésus, malgré le fait qu'il leur a montré ses plaies dans ses mains et ses pieds, il les a invités à les toucher pour constater qu'il était bien en chair et en os, et qu'un fantôme, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas faire qu'est-ce qu'eux pouvaient faire avec Jésus. Et là, ça dit même qu'il a pris quelque chose à manger pour leur prouver que c'était bien lui et qu'il ne s'agissait pas d'un fantôme. Alors, pas longtemps après, naturellement, Thomas semble apparaître parce que Jésus réapparaît à nouveau, cette fois-ci aux 11 disciples dans la chambre haute. Et là, naturellement, il y a une interaction avec Thomas pour montrer à Thomas, regarde, oui, tu peux croire. Et viens, touche-moi, et puis tu n'as pas besoin de d'autres choses. Maintenant, je suis là et tu peux croire en moi. Et on sait que Thomas a eu comme réaction, mon Seigneur et mon Dieu. Et là, naturellement, Thomas a cru que Jésus était ressuscité. Une septième apparition, on voit que Jésus est apparu à 7 disciples qui étaient sur le bord de la mer de Tibériade. On voit ça dans Jean 21, 1 à 25. Et sur ces 7 disciples-là, qui était présent? Pierre. Qu'est-ce que Pierre faisait? Il était à la pêche avec ses compagnons. Et là, on voit que Jésus lui apparaît dans ce contexte-là parce qu'il veut restaurer le cœur de Pierre. Parce que Pierre, vous souvenez, la dernière fois, il avait renié Jésus. Lui qui disait que jamais, jamais il allait faire ça, il avait renié Jésus. Et il semble que le cœur de Pierre était encore affecté par ça. Et Jésus le savait. Et là, il vient le rencontrer, prépare le repas, interagit avec lui, lui pose trois fois la question, m'aimes-tu? Et finalement, Pierre, on voit que son cœur switch. Et puis là, tout à coup, il redevient Pierre. Et la première chose qu'on voit qu'il redevient Pierre, c'est qu'il pose une question, puis Jésus lui dit, c'est pas de tes affaires. Alors ça, c'était Pierre est de retour. Le bon vieux Pierre est de retour, celui qui parle plus vite qu'il réfléchit. Mais Jésus ne semble pas trop être pris au dépourvu avec ça. Et là, la huitième apparition, là on voit que Jésus est apparu à 500 personnes à la fois, et ça s'est passé en Galilée, et ça on le voit dans 1 Corinthiens 15, le verset 6, et possiblement, c'était sur la montagne que Jésus leur avait désignée, parce que dans Matthieu 28, 16, Jésus dit d'aller à la montagne en Galilée et qu'il allait rencontrer justement ses disciples là-bas. Et c'est fort possible que c'est à cette occasion-là où il y avait 500 personnes, donc 500 disciples qui croyaient en lui et qui l'ont vu en même temps apparaître. Et plusieurs témoins étaient toujours vivants au moment où les écrits du Nouveau Testament ont été rédigés. Vous savez, si Jésus n'avait pas été ressuscité, puis que là, ça commençait à circuler partout, là, qu'il est ressuscité, et là, il y a au-dessus de 500, mettons, 30 et plus personnes qui peuvent corroborer, oui, on l'a vu, oui, il est ressuscité. Et que quand les écrits du Nouveau Testament, autant les évangiles que certaines épîtres, ont été écrits, réclamant comme de quoi que Jésus était ressuscité, et voici des noms de ceux qui l'ont vu ressuscité, si ça n'avait pas été vrai, naturellement, ça n'aurait pas tenu la route. Ça ne peut pas tenir la route aussi longtemps un mensonge, vous comprenez? Quand il y a tant de gens qui peuvent dire, au contraire, non, 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 il est là, il est enterré, puis là, les autorités romaines, les autorités juives auraient complètement défait ça, puis auraient fait tout en leur pouvoir pour dire que non, il n'est pas ressuscité, c'est faux, c'est un mensonge. Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire ça? Le problème, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et il y a même des soldats romains qui savent ce qui s'est passé. Vous comprenez? Pas juste des croyants, là. Mais en plus, il y a même des soldats romains qui savent que le tombeau est vide et qu'est-ce qui s'est passé. Une neuvième apparition, ça a été à Jacques. Alors, le Jacques ici, ça serait soit l'un des 11 apôtres, ou encore celui qui était le demi-frère de Jésus, mais c'est pas précisé dans 1 Corinthiens 15:7. On sait juste que c'est Jacques. Alors, et il est apparu à Jacques d'une manière personnelle. Et finalement, la dixième apparition, c'est aux 11 apôtres pendant les 40 jours avant son ascension au ciel devant eux. Acte 1:3, on voit qu'ils sont ensemble et là, Jésus est emmené au ciel sur une nuée devant leurs yeux. Donc, au moins 10 différentes apparitions montrant que Jésus est bien ressuscité. Maintenant, comment expliquer les divergences entre les récits des évangiles? Je vais vous donner une petite citation d'un auteur qui a fait un commentaire sur Marc qui s'appelle Daniel Arnold. Et voici ce qu'il dit. Les témoignages de la résurrection sont unanimes à rapporter certains faits essentiels, dont que le dimanche matin, certaines femmes se sont rendues au tombeau et ont trouvé la pierre roulée de côté et le tombeau vide. Jésus s'est ensuite manifesté à différentes reprises et à différents endroits, que ce soit à Jérusalem ou encore en Galilée, et à différents individus ou à des groupes de croyants. Les 4 évangiles, il n'y a aucune ambiguïté à cet égard-là. Par contre, d'autres détails divergent d'un évangile à l'autre, au point que certains commentateurs mettent en doute la cohérence des récits. Maintenant, ce qu'ils disent ici, c'est très important, parce que c'est régulièrement le cas lorsqu'il semble y avoir des fois des contradictions. Mais il dit ceci, une harmonisation des témoignages, c'est-à-dire une harmonisation des 4 évangiles lorsqu'on les place, puis on les décortique, puis là on les met ensemble, et en particulier lorsqu'on tient compte de la dimension géographique des événements et de la perspective unique de chaque auteur des évangiles. Là, tout à coup, on peut harmoniser les 4 évangiles et tous les faits entourant la résurrection de Jésus. Je vais vous donner un exemple de ce qu'il essaie d'expliquer. Par exemple, il dit, « Il est possible que Pierre et Jean soient demeurés à Jérusalem. » Souvenez, Pierre et Jean sont les deux disciples qui ont suivi Jésus jusque dans le prétoire pendant que Jésus se faisait battre puis il se faisait moquer de lui et tout ça. Et les autres, le texte nous dit qu'ils ont disparu dans la brume. On ne sait pas où ils sont allés, mais ils n'étaient pas présents. Juste Pierre et Jean qui ont étaient là, qui ont suivi, puis c'est là que Pierre a renié justement Jésus 3 fois pendant ce temps-là. Alors, c'est à Jérusalem qu'on les voit pour la dernière fois, et que les autres disciples se sont possiblement réfugiés à l'endroit où, pendant ce temps-là, Jésus allait régulièrement, qui est à Béthanie, et possiblement chez Marthe et Marie, parce qu'ils sortaient de Jérusalem, puis s'en allaient tout le temps à Béthanie pour être loin des feux de la rampe, aller récupérer, puis là, il revenait à Jérusalem, puis il continuait son ministère. Puis c'était comme ça jusqu'à la fin. Alors, c'est fort possible que ces mêmes disciples-là, tenant compte des événements de ce qui se passe, on sait qu'au jardin de Gethsémané, les Romains sont arrivés, et là, les disciples ont été dispersés, sauf Pierre et Jean. Alors, eux, ce seraient les... Autrement dit, il y en a 9 qui auraient été à Béthanie. Il est possible alors que Marie de Magdala aient été avertis, Pierre et Jean, qui étaient à Jérusalem, et que les autres femmes aient simultanément informé les autres disciples qui étaient à Béthanie. Donc, c'est comme si, à certains moments donnés, on pense que tout le monde est ensemble, mais en fait, ce n'était pas le cas. Alors, Marie de Magdala, on sait qu'elle a eu, en plus, une apparition de Jésus, donc elle était seule, et qu'elle aurait été avertir Pierre et Jean. Et c'est pour ça qu'on voit Pierre et Jean venir au tombeau, puis on ne voit pas les autres. Parce que là, Pierre et Jean étaient à Jérusalem, tandis que les autres étaient un peu plus loin, à Béthanie. Alors, c'est plausible. On ne peut pas l'affirmer parce qu'on n'a pas tous ces détails-là. Mais c'est très plausible, sans tirer par les cheveux, là. Alors, ce qui expliquerait pourquoi, selon l'évangile de Jean, ils furent 2 seuls disciples à être informés du tombeau vide par Marie de Magdala. Parce qu'ils étaient ensemble, Pierre et Jean, dans Jean 20, 1 à 10. Ce qui expliquerait aussi pourquoi seul Jean rapporte avec autant de détails ce fait important, puisqu'il est le seul évangéliste à l'avoir vécu. Donc, les autres évangiles ne pouvaient pas parler de ce phénomène-là parce qu'ils n'étaient pas là. Donc, Jean, lui, naturellement étant présent, ayant vécu ça avec Pierre, peut rapporter ces détails-là avec autant de précision. Donc, c'est plausible. Tandis que les autres évangélistes se sont contentés de mentionner seulement que les femmes coururent porter la nouvelle aux disciples, ou aux onze, dans Matthieu 28, 8, Marc 16, 10, puis Luc 24, 9, sans faire allusion à ce que Jean rapporte dans son évangile. Vous voyez, c'est très plausible, c'est facile à comprendre, et là, on peut harmoniser cette divergence qui semble être à première vue là, entre Jean et les autres évangiles. Alors, il rajoute ceci, je pense que c'est très important. La divergence des récits ne change en rien les faits, mais seulement l'agencement de ces faits et les détails entourant les faits du récit. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'un témoin donne certains détails qu'un autre témoin ne donne pas que ça change ce qui s'est passé. Ça donne juste plus de détails et ça ne vient pas remettre en question les faits. C'est-à-dire, il y a eu un accident, il y a eu un dépassement. Maintenant, les détails entourant ça peuvent varier d'un témoin à l'autre, mais là où ceux qui vont essayer de reconstituer les faits et la scène vont voir que même si les détails entre les témoins ne sont pas exacts, les faits principaux, eux, tiennent la route. Et c'est pour ça qu'ils vont arriver à des conclusions. Alors, la divergence des détails rapportés dans les quatre évangiles ne fait qu'enrichir le récit, vous voyez, et de la résurrection, au lieu de l'appauvrir ou de le contredire. Alors, un évangile va nous donner certains détails qui vont venir juste nous en donner un petit peu plus et nous aider à expliquer un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Finalement, la quatrième preuve, et c'est pas la moindre, elle est vraiment de taille, elle est intéressante même. Alors, la première preuve, c'était le tombeau vide. La deuxième, les témoins du tombeau vide. La troisième, les apparitions, où là, non seulement il y a un tombeau vide, mais tout à coup, il y a un Jésus. Mais là, il est ressuscité. Et là, il est apparu au moins à 10 occasions et à plus de 500 quelques personnes. Mais la quatrième preuve, c'est la transformation radicale de l'attitude et de la vie des apôtres. Marc nous le rapporte dans les versets 19 à 20, et les autres évangiles nous le rapportent aussi, et on le voit dans les actes des apôtres et dans les lettres. Vous voyez, les évangiles montraient les disciples effrayés et complètement démolis par l'arrestation et la crucifixion de Jésus. Ils sont complètement, là, toute la vie qu'il y avait en eux, là, est comme en l'espace de quelques heures, complètement enlevés de leur vie. Ils sont terrassés, au point qu'ils vont se cacher ou ils se dispersent parce qu'ils ont peur pour leur vie. Puis tout à coup, on les voit partout, parlant ouvertement à tous, incluant les leaders religieux, de la résurrection de Jésus, et ce, au péril de leur vie. Autrement dit, là, faites ce que vous voulez, essayez tout ce que vous voulez, menacez-nous comme vous voulez, mais nous, là, on n'arrêtera pas de parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'un groupe d'hommes qui était complètement muet, qui se cachait, découragé, démoli, et tout à coup, c'est comme des héros, gonflés à bloc, ayant peur de rien, et se promenant partout, puis même trouvant comme étant une joie et un honneur incroyable de pouvoir être arrêté ou persécuté pour le nom de Jésus. Il s'est passé quelque chose. Et la seule explication plausible, c'est parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Comprenez? C'est la seule explication. La seule explication. Ils ont vu Jésus le ressusciter pendant 40 jours. Ils ont cru qu'il était le Messie promis, le Sauveur du monde. Ils finirent, ça a pris du temps, là, c'était long, mais ils finirent par comprendre que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et qu'assurément cet homme était le Fils de Dieu. Et qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ils en étaient convaincus. Et là, ils étaient prêts à mourir. Vous savez, humainement parlant, là, tu ne donnes pas ta vie pour un mensonge. Quand tu sais que quelque chose est un mensonge, tu ne donnes pas ta vie pour ça. Non. Quand ta vie est sur la ligne, là, puis que c'est un mensonge que tu disais, tu ne vas pas jusqu'à donner ta vie. Impossible. Et surtout pas un aussi grand nombre de personnes. Parce qu'on sait dans l'histoire de la chrétienté combien de gens, combien de chrétiens, les premiers chrétiens ont perdu leur vie. Mais ils étaient convaincus. Et pourquoi? Ils l'avaient vu de leurs yeux. Comprenez? Ils savaient que la résurrection avait vraiment eu lieu. Maintenant, l'importance de la résurrection. Si je prendrais le temps de lire 1 Corinthiens 15, Paul donne au moins 5 raisons de l'importance de la résurrection. Autrement dit, la résurrection, là, c'est pas un fait banal. Le christianisme est basé non seulement sur la mort de Jésus, mais sur sa résurrection. C'est un peu comme les deux côtés de la même médaille. C'est les deux ailes sur lesquelles l'avion peut voler dans les airs. On ne peut pas avoir juste une. Un avion ne volera pas longtemps. Mais les deux ailes sur lesquelles le christianisme devient crédible, c'est le fait que Jésus est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour. La résurrection, elle est cruciale à la foi chrétienne. Et c'est pour ça que Paul dit, comme cinquième raison, que si on croit à Christ seulement pour une espérance qui est terrestre, eh bien, on est les plus malheureux des hommes. Parce que pourquoi est-ce qu'on donnerait notre vie si Christ n'est pas ressuscité des morts? Ça enlèverait toute la saveur à ce qu'on est en train de faire. Mais vous irez voir 1 Corinthiens 15 et Paul explique bien ça. Mais j'aimerais terminer avec ceci. Et c'est Jésus dans Jean 14, versets 18 à 21. Jésus, dans le fond, est en train de dire à ses disciples qu'est-ce qui s'en vient. Alors, il sait qu'il s'en va à la croix. Il n'est pas allé encore en Jean 14, mais il s'en va vers là. Et c'est justement dans les derniers moments. Là. Il est dans la chambre haute avec eux. Et là, il va les enseigner. Il a pris le repas du Seigneur avec eux. Mais là, il va les enseigner sur qu'est-ce qui s'en vient. OK? Et là, il leur dit ceci. Il dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisse pas derrière moi. Je reviendrai vers vous. Oui, je dois aller à la croix. C'est un incontournable. Mais ce n'est pas la fin. Je vais revenir vous voir. Vous allez me voir à nouveau. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous, vous me verrez vivant. Et vous vivrez vous aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous, vous vivez en moi, et moi, je vis en vous. Vous allez le comprendre ce jour-là. Il rajoute, « Si quelqu'un connaît mes commandements et les met en pratique, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime, et moi aussi, j'aimerai celui qui m'aime. » Et je me montrerai à lui. » Maintenant, Jésus, est-ce qu'il parlait juste à ses apôtres? On pourrait argumenter que la première partie, quand il dit « Vous, vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi », bon, OK, là, c'est après la résurrection, puis Jésus s'est manifesté justement à ses disciples, puis ils l'ont vu vivant, en chair et en os. Bon, alors ça, c'est réservé aux disciples, aux apôtres, à ce groupe qu'on voit là, au-dessus de 500 personnes qui ont eu cette chance incroyable, cette bénédiction incroyable de voir Jésus vivant. Mais quand il vient ici, dans cette partie au verset 21, là, c'est à tous. Parce que Jésus dit, la seule chose, c'est celui qui m'aime. Hein? Celui qui m'aime. Mon Père va l'aimer, moi aussi je vais l'aimer, et je me montrerai à lui. N'est-ce pas fantastique? Ça, c'est un des plus grands bénéfices de la résurrection de Jésus. C'est qu'on peut avoir une relation vraiment personnelle avec lui, intime, une relation d'amour où Jésus peut rencontrer notre cœur et interagir avec notre cœur. Il a dit qu'un jour, ceux qui adoreraient Dieu l'adoreraient en esprit et en vérité. Et ça, c'est l'accès qu'on a. Vous savez, l'une des plus grandes répercussions de la résurrection de Jésus est son accessibilité à chacun de nous. Jésus fait la promesse de se faire connaître, de se révéler tel qu'il est vraiment, lui, le Fils de Dieu, à celui qui l'aime, à celui qui connaît ses commandements et celui qui les met en pratique. Une relation d'amour par la foi, cœur à cœur avec Jésus. Voilà la plus grande répercussion de la résurrection de Christ. Une complète accessibilité à Christ, à son Père et au Saint-Esprit. Aimeriez-vous rencontrer celui qui est mort sur la croix pour vos péchés et ressuscité des morts pour vous donner la vie éternelle? Aimeriez-vous avoir une relation d'amour par la foi, cœur à cœur, avec lui? C'est possible. Prions ensemble. Seigneur Jésus, chacun de nous, on est différent. Chacun de nous, on a une histoire. Chacun de nous, Seigneur, ce matin, on a un cœur. Il n'y a pas personne qui est ici qui n'a pas un cœur. Et chacun de nous, Seigneur, vit des choses au quotidien. Parfois des choses qui sont tellement difficiles, tellement pénibles. On ressemble parfois aux disciples découragés. On se sent coupable, pas à la hauteur, qu'on a manqué, que tu dois être fâché après nous. On sent qu'on est distant avec toi, Seigneur, que notre cœur est mal en point. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais en même temps, on sait qu'on n'est pas proche de toi comme on devrait l'être ou comme on aimerait l'être. Seigneur Jésus, tu es ressuscité. Et tu dis dans ta parole que tu vas te faire connaître. Tu veux te faire connaître. Tu veux, Seigneur, que on goûte à ta présence. Que ce ne soit pas théorique, cette affaire-là, mais que ce soit vrai, que ce soit vécu, et que ce soit au quotidien même. Oh Seigneur, comment est-ce que tu pourrais venir vers nous ce matin? Ou comment pourrais-tu venir vers moi ce matin? Interagir avec mon cœur. Est-ce que je te connais comme mon sauveur personnel? Est-ce que je t'ai déjà invité à venir dans ma vie? Puis dire, bien, Jésus, t'as donné ta vie pour moi, bien, tiens, la mienne, je te l'apporte volontairement. J'embrasse pas une religion, c'est pas une nouvelle église, c'est pas une nouvelle philosophie. C'est toi, Jésus. Es-tu là? Es-tu là présentement? C'est-tu vrai que tu me vois? C'est-tu vrai que je peux te parler? C'est-tu vrai que je peux t'ouvrir mon cœur? Je me sens seul dans ce monde, Jésus. Il me semble qu'il n'y a pas personne qui est là pour moi. Personne ne me comprend. Est-ce possible de venir à toi? Est-ce possible d'avoir une relation avec toi? Est-ce possible que je puisse te confier tout, tout? J'aimerais tellement ça, Jésus, que tu sois vrai pour moi, que je sente ta présence à côté de moi, que si je te parle, si je me tourne vers toi, tu parles à mon cœur. Tu réponds à mes questions. Est-ce que je peux te confier mon fardeau ce matin? Mes doutes, mes luttes, ma situation, mes circonstances. Je t'invite, Seigneur Jésus, ce matin. il va falloir que ce soit toi qui fasses quelque chose, parce que moi, je sais pas quoi faire, je sais pas comment aller à toi. Mais si tu m'entends présentement, si tu entends ma prière, peux-tu venir vers moi? Peux-tu prendre mon cœur, transformer ma vie, me donner cette relation avec toi, une relation d'amour, par la foi, cœur à cœur avec toi, Jésus. Je t'invite ce matin. Merci d'être mort sur la croix et d'être ressuscité d'entre les morts, d'être vivant présentement et d'être là. Amen.